La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekiosqueapizza.com. Pour votre santé, bougez plus.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Et la Dream Team d'RMC. Non, j'ai arraché.
38 par 3, ça doit faire 114.
Matière préférée, c'est les maths.
Je pense que vous êtes tous rendus compte que mon animal fétiche a eu un peu de retard, mais je l'ai retrouvé, ne vous inquiétez pas.
Tu me prendrais pas pour un perdreau, là, un peu, non? Tu me prendrais pas pour une galinette cendrée, un peu, non? Je te vois arriver avec ton fusil, là.
J'avoue que depuis 15 ans, leur ton tranchant sur l'antenne m'a charmé. Ouais. Si t'aimes pas le foot, je préfère te prévenir, l'after c'est pas pour toi. Au micro, un canet, un parigo et puis un strasbourgeois.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h06, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là avec nous, Roger, auditeur fidèle de l'After, est en studio ce soir également. L'actu de la 48 heures de la Coupe de France, l'actu de la finale, Saint-Etienne comme promis, et ensuite on parlera du métier de recruteur dans l'After, voilà le programme de cette deuxième heure. Donc,
attends Gilbert,
oui,
petite digression.
Ah,
c'est parce que j'ai une réplique super importante à faire.
Ah,
je me suis fait...
reprendre
le volet.
Oui.
Sur l'autre jour, quand on a parlé à Popo de Rodas de la Ligo, et j'ai dit, ouais, il y a la même chose en Corée, ça s'appelle la truffade. Et alors là,
ah oui,
énorme
j'ai
boulette, ça n'est pas du tout la même chose.
Aussi, ouais, genre de choses.
J'ai dérapé. C'est un peu le MeToo du fromage et, de la saucisse, là. Donc je précise, je m'excuse auprès des Aveyronnais. À Ligo, purée avec fromage, avec fromage d'aïeul, plat aveyronnais, truffade, pomme de terre, ail avec tom, c'est un plat auvergnat. C'est pas pareil. J'ai une petite dédicace à Jean-Baptiste. Qui m'en a parlé.
Il paraît que j'ai fait 2-3 remarques sur Rodez qui n'ont pas plu du tout.
Il paraît que tu n'as pas été très sympa sur Rodez. Déjà à l'époque, tu nous avais fâchés avec Niort. Il y a quelques temps.
Qu'est-ce que j'ai dit sur Rodez?
Tu
vas bientôt être cantonné dans ton triangle, porte de Versailles.
J'ai dit que Rodez, le stade, il était champêtre. Et c'est quoi le problème?
Il n'est pas champêtre en plus, parce qu'il est en pleine ville. C'était pas une en plus factuellement un stade champêtre, c'est pas ça
qu'on considère être une ville.
Ah non, mais t'avais derrière
voilà, tu vois, ça continue.
Non mais là par contre,
mais non, j'ai juste dit que derrière on voyait la voiture de Robert qui était garée. C'est quoi le problème? C'est pas la vérité peut-être?
Non, c'est la vérité.
Je pense qu'il y avait pas de voiture de Robert, c'est peut-être pas son prénom, tu vois. Faut être précis.
Les stades où tu vois les maisons derrière et les arbres et tout, c'est pas sérieux.
Et Brest alors,
c'est pareil?
Ben même Brest, c'est pas c'est pas insulter leur belle saison que de dire qu'ils ont un stade qui est mignon, mais moi les stades où on voit les immeubles à côté, c'est pas sérieux. Ça fait pas grand club, ça fait pas.
Voilà. Bon, la Coupe de France. Mbappé, Dembélé dans le groupe. On l'a appris ce matin. Alors Mbappé, il fait une grosse semaine sur Instagram. Hein. Ce week-end à Cannes. Lundi soir, soirée d'adieu. Oui. Match de tennis également avec un de ses potes.
Ouais.
Et là aujourd'hui, c'était photo avec Bernard Arnault. Rencontre au sommet.
Oui, j'ai vu, ils sont mis en pause.
Ouais, en pause. S'ils faisaient un mur, tu sais, ils se protégeaient comme ça.
Ils étaient mis l'un à côté de l'autre, j'ai l'impression qu'il y avait un coup franc.
Gilbert, on te fait rappeler.
Un coup franc excentré parce qu'il y avait un mur à deux.
Dernière photo en date, une photo de l'entraînement. Donc il voulait peut-être montrer qu'il était aussi quand même à l'entraînement.
Gilbert, on te fera plaisir.
Ouais.
Tu voulais voir Mbappé sur le terrain.
Moi, je veux toujours voir les bons joueurs, Roger.
Bah, là,
toi, t'aurais souhaité qu'ils jouent pas?
Ah oui.
Bah, là, franchement, au point où on en est, pardon, mais c'est un petit peu bizarre. Hein. Et depuis quand il s'est pas entraîné comme il faut?
Bah, là, en l'occurrence, il a
posté une photo. Là, on est sur une fin de saison, il est complètement à côté. Déjà, on pensait.
Ah, le pire, il peut être dans le groupe et ne pas jouer. Hein. Ce serait le comble.
Ça serait pas mal pour son ego.
Contre Dortmund.
Oh, Roger, je sens qu'il est énervé.
Tu te disais que. Bon, moi, en tout cas, je disais que la qualification ne passerait que par lui. Mmh. Elle n'est pas passée par lui parce qu'elle est passée nulle part. Parce qu'il n'a pas été bon et toute l'équipe a été mauvaise. Et lui, principalement. Si même sur un tel événement où on pensait au minimum que son orgueil le porterait à être bon, tu vois que physiquement, il n'est pas au point. Ça m'aurait franchement pas choqué dans la logique de Jiffy qu'il le fasse pas jouer la finale de la Coupe. Si ça se trouve, il sera pas titulaire. En tout cas, à la limite, je trouve presque étonnant s'il démarre titulaire. puisque vu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, où il est pas au niveau.
Après, il peut faire l'inverse. Il peut aussi le mettre titulaire. Là, je te vais faire une réponse à la coach Courbis.
Dans les jambes, quand même.
Et le sortir. Enfin, tu vois bien comment ça se passe avec le Sonriquet.
Mais il peut avoir quand même à un moment haut dans les jambes. Il faut avoir un peu de compète. Hein. Dembélé, depuis quand il joue pas? Il les a fait tellement reposer. S'ils courent pas 120 km dans le match dimanche, tous autant qu'ils sont, parce qu'ils sont tous reposés. Hein.
Daniel, ça fait pas si longtemps qu'ils jouent pas. Hein. Ça fait même pas 15 jours.
Qui?
Dembélé.
Bah 15 jours, Roger. Mais
c'est on est d'accord, parce que là, la dernière fois.
15 jours, comme moi, quand je joue pas au tennis pendant 15 jours, je reviens sur le court, je sais même pas comment on fait un coup droit.
Tu es un amateur.
Non, mais attends, je vais bien lui rappeler parce que des fois, il croit que non.
Mais non, mais Roger, mais 15 jours, c'est énorme pour un footballeur professionnel.
Je sais, mais des fois, tu dis.
C'est trop, t'as pas de compète. T'as pas de rythme.
Qui t'a dit qu'il ne s'était pas entraîné déjà?
Voilà. Non, mais c'est peu.
Il a joué au tennis.
Ça fait des mois qu'il s'entraîne pas bien.
Non, mais ça, c'est autre chose. Je suis d'accord avec toi, il a pas été bon. Je suis d'accord avec toi sur le Dortmund. Il a pas été au niveau, c'est évident. Et c'est évident que le problème, le battage de la fin de saison, lui a mis un truc dans la tête qui va pas. Mais là, pour Dembélé, c'est pareil. Qui te dit que les mecs, voilà, ils font rien depuis 10
moi,
jours.
Moi, je parle de Dembélé, je ne parle pas d'Mbappé. Mbappé, pour moi, il n'existe plus.
Ah bon, carrément.
Ah non, je parle de Dembélé. Moi, Mbappé, c'est fini. Mbappé, c'est un VRP de la France. Hein. C'est fini. Hein. Il est avec Macron, il est en soirée, il est avec Bernard Arnault.
Ouais, mais il est
fini.
Dans des belles soirées quand même.
Oui, mais ça, moi, c'est pas mes soirées. Hein. On n'a pas le niveau.
Tu serais pas allé dans les soirées de Verratti, toi?
Pourquoi pas?
Ah, parce que tu disais que j'exagérais tout le temps sur
Verratti. Je n'ai jamais dit que tu exagères sur Verratti.
Qu'est-ce que
je
disais,
tu fais une fixette. Moi,
c'est quoi la différence?
Tout ce que tu disais sur Verratti ou sur Neymar, c'est vrai.
Ah, mais c'est sûr que c'est
oui,
vrai.
Oui, c'est vrai. Mais après, à force de le répéter, on t'y croit plus.
Parce que je comprends pas pourquoi, à force de me répéter, on croit pas.
Parce que tu fais de ça une histoire personnelle.
Voilà.
Tu fais une histoire personnelle. Ah oui.
Mais pourquoi vous croyez
c'est comme,
ça?
C'est comme Jiffy. C'est comme Jiffy. Parce qu'au départ, toi, tu voulais de. Comme moi, on est des supporters parisiens. Vous voulez de Mota. On est d'accord, Daniel, oui, tu voulais être Mota.
Bien sûr.
Ah ben, on est d'accord, voulais être Mota. Mais j'ai Jiffy, je suis mon club. Toi, on est d'accord, tu fais ton métier de journaliste.
Voilà, Roger, c'est pas la même chose.
Oui, tu fais ton métier de journaliste.
Moi, j'ai un avis que je construis sur les personnes.
Oui, mais toi, tu.
Mais les gens ont cru que je racontais des histoires. Je racontais une anecdote. Samedi soir, il se trouve que j'étais invité dans une soirée dans un établissement nocturne de qualité dans Paris. Et à un moment, je vais aux toilettes et je suis rattrapé par.
C'est pas le PMU à Ballard.
Non. Je suis rattrapé par un membre du personnel qui vient derrière moi, qui me dit Daniel, monsieur Ayolo, tu veux? Oui, oui. Bonjour, on discute deux secondes. Il fait, vous savez, moi, je travaille ici depuis 20 ans. J'ai tout vu ici. Mais vraiment tout vu. Je dis, oui, c'est-à-dire tout. Pour Verratti. Évidemment que vous aviez raison. Les gens, ils veulent pas vous croire. Il était là tout le temps avec ses paquets de clopes et ses boissons. Et quand Neymar venait, je vous dis pas ce qu'on voyait. Évidemment qu'ils étaient là tout le temps. Mais je comprends pas pourquoi vous transformez ça en fixette.
Mais si, parce que par exemple, quand tu dis pour Luis Enrique, par exemple, effectivement,
j'ai mon avis sur la question.
Démonstration de la fixette. Quand hier soir, tu démarres l'after en voulant allumer Xavi Alonso et en citant Luis Enrique au bout de 3 minutes juste
tout
après, ça, c'est une fixette.
Tout à fait.
Mais c'est parce que je veux marteler.
Voilà, donc là, t'assumes la fixette.
Mais on peut t'écouter, Daniel, quand tu l'as dit deux fois. Et laisser les autres le voir par soi-même. Mais à force de le répéter, on pense que tu veux nous mettre ça dans le crâne. Et moi, je déteste qu'on me mette quelque chose.
Il n'y a pas que ça. Je pense que la fixette, c'est parce que, et tu l'as assumé toi-même en disant sur Luis Enrique, c'est une sorte de coming out.
Tu l'aimes pas.
Tu as dit, je l'aime pas. Ouais. Humainement, je l'aime pas. Oui. Presque, il me sort par les trous. Ça dénature parce que les arguments, les infos factuelles sur le fait que Verratti sorte, c'est très important. Mais le fait que dire, en gros, que les gens aient l'impression, en tout cas, que tu puisses pas les blairer, juste humainement, ça dessert, en gros, le propos qui se suffit à lui-même si tu as les infos factuelles qu'ils passent nuit dehors.
Je crois que pendant des années, ça gênait personne ce qu'on pensait de Raymond Domenech.
Oh, mais factuellement, ça suffit de voir ce qu'il faisait sur le terrain.
Et ben alors donc,
pour dire,
c'est pas parce que j'ai fait cette je sais pas, confession sur l'aspect humain que je n'aime pas chez lui, mais ce que je n'aime pas, c'est finalement du factuel, c'est sa prétention, son arrogance. Je n'aime pas les humains qui sont comme ça. C'est tout.
Daniel,
ça ne trahit rien de ce que je pense. Factuellement, ce que j'ai vu de cette année ne m'a pas convaincu du tout. Et je peux même aller plus loin. Non seulement je l'assume, mais je pense qu'on va au devant de grandes désillusions. C'est tout. C'est mon avis.
Et je peux revenir sur Verratti. Verratti, quand Verratti est arrivé, tu étais pro-Verratti.
Et bien sûr.
Et même tu demandais à ne pas mettre Matsuidi, tu demandais à mettre Mota Verratti.
Absolument.
En doublette. On est d'accord.
Absolument. 2015, la rupture.
N'empêche que là, tu nous montrais que tu aimais Verratti.
Mais si c'est parce que j'aimais le joueur pour l'avenir.
On est d'accord. Mais si tu as viré après que tu montrais que tu aimais pas Verratti.
Parce que j'avais les infos.
Et tu donnais les infos et les exemples. T'avais pas besoin de le répéter. Ah bon. On aurait vu ta bonne foi, l'aimer, ne pas l'aimer. Après,
c'était ma bonne foi. La bonne foi, c'est ce qu'on a vu, malheureusement.
Oui, mais
un joueur qui s'est dégradé. Roger, je trouve que tu es très bon conseil. Aller. Je te remercie d'être venu.
Merci, Roger.
C'est un peu le coach mental. J'ai l'impression d'être un peu dans un cabinet.
Je reviens à la Coupe de France et aux infos. Côté lyonnais, l'info du jour, c'est que le Brésilien Lucas Perry sera le gardien. Lucas Perry sera le gardien lyonnais.
On aura donc Perry en la demeure.
voilà. Alors, peut-être que Lopez a bel et bien joué son dernier match avec l'OL dimanche dernier. Hein. Voilà, il y a encore. Il n'y a encore rien de tout à fait officiel, mais voilà la grosse tendance. Et puis sachez quand même que ce match sera classé à haut risque par la direction de lutte contre l'hooliganisme, 5 sur 5 sur l'échelle des risques. Donc gros dispositif policier, présence normalement d'Emmanuel Macron s'il revient à temps de Nouvelle-Calédonie. Voilà, alors que la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, elle ira à la finale de la Ligue des Champions féminines dans le même temps, qui se joue à Bilbao avec l'Olympique lyonnais également. Et puis autre histoire liée à la Coupe de France. Une histoire marseillaise. C'est vrai que traditionnellement, la finale de la Coupe Gambardella se joue en levée de rideau de la finale de la Coupe de France. Là, cette année, la finale de la Gambardella, c'est Marseille-Nancy. D'ailleurs, petit scandale dans l'histoire, parce que les pauvres Marseillais, trois de leurs joueurs leur ont été enlevés par l'équipe de France U17, qui n'a rien voulu savoir. Qui aurait quand même pu laisser ces trois gars jouer la finale de la Gambardella. Et ouais. Longoria a râlé en disant, mais c'est quoi cette histoire? Donc, ouais. En gros, c'est n'importe quoi. Il a raison là-dessus. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Donc, l'équipe marseillaise va arriver un peu diminuée. Et donc, les supporters de l'OM, voulez-vous dire voir soutenir leurs jeunes, comme ils l'ont fait lors de tous les tours? Il y avait notamment un match contre le PSG où il y avait beaucoup de monde à Marseille. Eh bien, ils ne peuvent pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas de quota de place réservé pour les supporters des équipes de la Gambardella. Parce que l'idée des supporters marseillais, c'était on vient voir la Gambardella, puis nous, derrière, il y a le PSG, donc on s'en fout, on se casse. Avant la finale de Coupe de France. Eh bien, pas possible. Interdiction de venir pour les supporters marseillais qui, là, sont pas.
Il n'y a pas que ça. Hein, le décret du l'arrêté, je ne sais pas comment ça s'appelle, du préfet par rapport à cette finale pour les supporters même lyonnais et parisiens est très, très strict, très compliqué parce que. Le fait de l'appartenance à un club, c'est-à-dire le fait d'avoir un maillot. Pour tous les supporters encadrés qui vont venir en bus, c'est déjà, pour tous ceux qui connaissent pas le foot, faudrait voir, quand vous lisez l'arrêté, tu hallucines, hein. Mais bon, tu sais, ils vont se mettre sur un parking, dans l'aire d'autoroute, oui, machin, etc. Mais le plus compliqué, ça va être que tu peux arrêter ou empêcher d'aller dans le stade des gens qui vont avoir des maillots qui sont, qui peuvent être estampillés comme supporters soit lyonnais soit parisiens, mais qui sont des lambdas, qui sont entre guillemets, qui sont pas dans des
supporters. Qui sont pas dans la bonne zone, quoi.
Et qui seraient pas dans la bonne zone. Donc, quand tu vois l'arrêté quand même, tu te dis que on est arrivé quand même à un niveau de complexité, de dinguerie, y compris au niveau des préfets, qui est assez folle.
Bon, voilà pour la Coupe de France. Ce sera sur RMC samedi. L'after sera là. Daniel sera là d'ailleurs. Jean-Louis Tour sera là également jusqu'à 12h30 samedi.
Mais à l'intérieur du stade, on pourra mettre un maillot. À l'intérieur.
Oui, mais si tu peux pas y pénétrer, si t'es pas dans la bonne.
Non, attention, tu peux te faire virer par un stadier. C'est déjà arrivé. Ah oui. S'il y a interdiction de porter une couleur distinctive et tout.
En dehors des parkages.
Assis, on peut venir t'attraper, te prendre, te dire monsieur
une
dehors.
Une fois que t'es assis dans la tribune.
Ben oui. Une fois que t'es assis dans la tribune et que tu as le maillot qui est pas le bon au bon endroit, tu peux te faire virer.
Ah, qui est pas le bon au bon endroit, oui. Mais parce que malheureusement, il y a tellement de tarés que tu peux dire, comme si t'es passé à Nantes dans le match Nantes-OM, un mec vient et ça te tourne mal. Le problème, c'est qu'on a tellement eu d'incidents qu'on en arrive à ces aberrations. Mais il y a eu tellement d'incidents. Ouais,
mais bon, tu vas avoir des familles qui vont arriver avec le petit qui a le maillot machin.
Bien sûr, évidemment, on le sait.
Il ne faut pas rentrer. Non, c'est pas possible.
C'est ridicule.
On le sait.
Bon. Dans un instant, Saint-Etienne au programme, mais je voulais vous signaler juste avant, vous connaissez l'existence de la revue de l'After. On a une petite nouveauté. On lance le cahier de vacances de l'After. Et ça, c'est du lourd. avec des jeux de, ah, de sur très la haut plage. Niveau. J'ai bossé dessus là en aujourd'hui. Martinique, des jeux de très haut niveau, faits par Jean.
Il y a de tout, il y a des trucs pas simples.
Le cahier de vacances, c'est quelque chose.
Je me suis fait un peu planter. Par exemple,
il sort le 5 juin, vous pouvez le précommander dans
par exemple. Ah ben non, mais balance pas des réponses.
Non, pas des réponses. Je dis juste.
Il y a tellement de jeux.
Il y a tellement de jeux, mais en 98, par exemple,
il y a plus de 150 jeux.
Des champions du monde 98 et des clubs parmi les plus improbables, entre guillemets, qu'ils ont pu faire dans leur carrière. Et donc, bon, genre, j'en spoil un, Deschamps à Valence. Ça va, tu vois. Mais il y a plus compliqué. J'ai eu du mal à relier les.
Pas fait un cahier de vacances pour les blaireaux.
Si, quand même un peu parfois.
Le bœuf à Strasbourg, tu l'avais.
Quand t'as, par exemple, le club préféré de chaque afterien, si, là, y a, des fois, c'est
oui,
facile.
Mais ça, c'est un Thomas, après, Rennes, les questions, il y en a des solides. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Non, il y en a pour tous les goûts, pour tous les niveaux. Voilà. Dans un instant, ça t'était
un truc très drôle. Oui. C'est en 1990, à la page, il y a. Dans quel établissement scolaire étaient les membres de l'after. Oui. Et là, tu devais savoir qu'il y en a qu'à la maternelle.
Oui.
Je crois que c'est Julien Laurence.
Non, c'est Walid.
C'est Walid.
Ah, bah oui, évidemment qu'il était à la maternelle.
Il était pas né, attends.
Alors que Daniel était à la fac.
Pas quel genre de gamin se pouvait être à la maternelle.
Vous avez entendu la trompette, hein. Vous envoyez roue par Walid. SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes.
Je pense qu'il était bien à la maternelle, mais par contre, il paraît qu'à la cantine, il restait trop longtemps. il va m'en vouloir.
Il piquait les desserts. Moi, on m'a dit, il piquait les desserts des autres.
Allez, à tout de suite dans l'after, ça t'étient au programme.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique. Voir conditions et règlements du jeu sur lekiosqueapizza.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Oui.
23h22, dans quelques minutes, on va parler du métier de recruteur avec notre invité du soir, mais pour l'instant, Saint-Etienne, Daniel Riolo est là. Roger avec nous, toujours. Sur Direct Studio, j'ai Bahara qui nous dit, mais je rêve ou c'est bien le mythique Roger qui est là? Oui, c'est lui, c'est Roger qui est là, assis à côté de Florent Gautreau, le flavescent Florent Gautreau. Saint-Etienne, Joss Randall est avec nous. Joss. Bonsoir. Ah, il est là ou pas, Joss?
Les Stéphanois se remettent.
Parce que Joss Randall fait une meilleure saison que Colomoigny.
Il est là ou pas, Joss? 3-2-1-0. Impact.
Moi, je suis allé en régie et je l'ai entendu.
Oui, je suis là.
Ah, tu vas bien?
Bonsoir, messieurs.
Ah, ça faisait longtemps, là, qu'on
t'a. Oui, je suis content de vous retrouver et je suis content de voir que vous vous intéressez à nouveau à la Saint-Etienne.
Ben, on t'avoue que c'est vrai que là, quand vous étiez un peu dans les bas-fonds de la Ligue 2, on vous a un peu oublié.
Ouais,
ils sont
bien
pas encore sortis de la Ligue 2, va pas les guigner.
Alors.
Ouais.
Bon, il y a le barrage, j'imagine, évidemment.
Déjà qu'ils se sont chiés dans le dernier match alors qu'ils avaient une autoroute.
Ouais, absolument.
Dans le Smecta Time, vous n'étiez pas là. Hein.
Smecta Time.
Ouais, absolument.
Vous êtes arrêté à Givors.
Je rappelle que notre ami Joss Randall, mais bon, vous avez compris que ce n'était pas le vrai Joss Randall, hein, bien sûr. Bon,
non, surtout que personne n'a cette référence en dessous de 50 ans. Donc,
Voilà, mais que vous retrouvez les chroniques de Joss sur le célèbre site peuple-vert.fr et sur les réseaux sociaux, bien sûr, régulièrement.
Et dans le Saint-Etienne Night Club tous les lundis soirs.
Le Saint-Etienne Night Club, vous montez en puissance, les gars.
Oui, le Saint-Etienne Night Club sur Twitch et YouTube avec une communauté de passionnés de Saint-Etienne tous les lundis soirs de 21h.
Bon allez, Joss,
je les salue au passage.
Les passionnés, ils sont contents, ils se remettent à rêver. Gazidis.
Oui, on voulait parler du plan de reprise là, hein, principalement. Qu'est-ce qu'on en dit à Saint-Etienne?
Alors, on en dit. On est quand même tous, malgré tout, dans une prudence de bon aloi parce que depuis 8 ans, on a vu passer des choses. Mais on est quand même tous très enthousiastes et surtout très surpris. En tout cas, moi, je suis très surpris. Je pense qu'on est, quand même pas. Il n'est pas interdit de penser qu'on n'est pas loin du miracle, parce que le projet qui semble se dessiner, c'est quelque chose qu'on n'attendait plus en fait. Tant par la nature de l'investisseur que par
qui n'est pas un fonds d'investissement, je le rappelle, hein,
en fait, on va évidemment tous attendre de voir, déjà tous attendre d'un communiqué officiel, que ce soit signé, hein, parce que quand c'est pas signé, c'est pas signé. Et puis après, on attendra de voir quel est leur projet, parce que finalement, aujourd'hui, personne n'en sait rien. On sait pas exactement ce qu'ils veulent faire, combien de temps ils veulent rester, ce qu'ils veulent développer, quels moyens ils vont mettre. Tout ça, on a pas vraiment d'infos.
Mais après, est-ce qu'il n'y a pas aussi, je comprends, les questions sont parfaitement légitimes, toutes les questions que tu poses. Mais dans la situation des Verts aujourd'hui, avec de toute façon des projets, il y en avait pas. De développement, il y en avait pas. Des idées, il y en avait plus. En gros,
des présidents, il y en avait plus non plus.
Des présidents, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus rien. Donc, à la limite,
c'est pour ça que je parle de miracle.
Ben voilà. Et c'est pour ça que j'ai presque envie de dire, évidemment que c'est mieux, évidemment que t'as le droit de poser les questions et tout, mais en fait, c'est tellement un miracle que t'as envie de dire, Monsieur Gazidis, votre bureau est là. Allez vous asseoir et puis allez-y. On est obligé d'y croire. On est obligé de croire.
Ça paraît tellement, c'était tellement peu probable parce que depuis le premier acte manqué, Pixix, mai 2018, on a vu passer tout un tas de choses farfelues. On finissait même par se dire que plus personne achèterait ce club, qui malgré tout est une marque, qui malgré tout a un public. Je rappelle quand même qu'on a fait 5 fois plus de 35 000 en Ligue 2 de suite, ce qui est un record historique. C'est un club qui a une histoire, mais malgré tout dans une région qui est pas attractive économiquement, qui est beaucoup phagocytée par Lyon, le passé sportif il est loin derrière. Donc et puis on voyait arriver personne à part des investisseurs purement financiers. Donc on s'était tous fait à l'idée, comme Laetitia en son temps, que ça allait être probablement je suis désolé.
Voilà, elle est parfaite, j'avais pas entendu.
Et on s'était tous fait à l'idée donc qu'on allait avoir droit à un investisseur à horizon financier, c'est-à-dire un Redbird qui vient, qui achète pour 11, qui essaie de revendre pour 50 et qui entre-temps finance par les plus-values liées au trading, point. Et malgré tout, on s'était dit, de toute façon, comme on va pas avoir le choix, puisqu'aujourd'hui l'histoire des actionnaires actuels était arrivée au bout... Eh ben, on s'était presque habitué à ça. Donc, quand on voit arriver un Gazidis, qui est un investisseur patrimonial, qui est un mec qui a réussi dans les affaires, qui est un mec qui a beaucoup d'argent, qui n'emprunte pas pour acheter le club, qui a l'habitude de faire de l'investissement sportif, d'une part, et d'autre part, qu'il arrive avec une équipe, il vient pas avec Pipo et Bimbo, il vient avec des mecs qui ont une grosse expérience dans le foot de haut niveau.
Il arrive avant même de savoir si la montée, est là, quoi.
Exactement.
Donc Gazidis, qui était l'ancien boss d'Arsenal, je le rappelle, pour ceux qui ont raté l'étape.
Et qui est passé à Milan aussi.
Et de Milan pendant 4 ans avant.
Et les gens en disent du bien, même Olas en dit du bien.
Exactement. Ah, même Olas,
il y a peut-être un piège alors.
Le premier supporter de la SS. ouais, peut-être. Non, mais en fait, vous rigolez, mais moi j'en arrivais même à me dire où est le loup, quoi. Où est le loup? Parce que là, on a juste envie de lui dire, viens là, tu t'assois, tu signes, appuie fort, il y a du carbone, et vas-y. Mais, alors, il semble quand même que l'histoire se dessine comme ça. Donc, évidemment, quand tu me poses la question, quel est l'état d'esprit, on est tous vachement contents. Voilà.
Ça s'entend pas dans ta voix, mais je comprends le bonheur.
Si, mais c'est parce que je me veux quand même sur une... Enfin, on explosera de joie, on ouvrira le champagne, on va pas faire comme les Italiens en 2000, on ouvrira le champagne quand on sera sûr d'avoir gagné. Enfin, c'est probablement ce qui pouvait arriver de mieux à ce club, et c'est quelque chose qu'on n'espérait plus. Enfin, moi, je l'espérais plus, en tout cas.
Quel message est-ce que tu veux envoyer à tes deux futurs ex-présidents? Démarrons par celui qui ne vient plus à Saint-Etienne depuis plusieurs années maintenant.
De toute façon, les présidents, ils sont plus là, c'est fini.
Oui, après.
Romier, c'est le vrai mec de Saint-Etienne quand même, toujours présent au stade, on peut lui faire plein de reproches, mais enfin, tu peux pas lui reprocher de pas être là. Voilà. Alors que Cayazo, oui.
Moi, j'oublierai jamais qu'ils ont été là à un moment où le club était au bord du précipice. J'oublierai jamais qu'ils nous ont offert quand même quelques belles années. 2011-2017, la période Galtier, où on a retrouvé des émotions, on a fait top 5, top 6, on a refait la Coupe d'Europe, et un titre, et une Coupe de la Ligue. Je pense que l'histoire a un peu trop duré, que les dernières années, notamment quand ils ont commencé à se mettre dans une optique de vendre, là c'était un peu long, et il fallait aussi des offres, hein, voilà. Maintenant, on en parlait avec des copains il y a pas longtemps, si c'est pour ce projet-là tel que j'imagine qu'il va être, je regrette pas d'avoir entendu. Voilà.
Bon.
Parce que on a eu l'épisode Blitzer qui à un moment donné pouvait. Moi j'y ai cru aussi. Je m'étais dit ouais Blitzer c'est il faut le faire, c'est mieux que ce qu'on a. Mais d'un autre côté aujourd'hui je préfère l'histoire qui va probablement s'écrire à celle qui aurait pu s'écrire avec un Blitzer qui est quand même un multipropriétaire qui investit pas à 100% dans les clubs. Moi je préfère largement cette histoire là. On va avoir un vrai patron qui s'est somblé, donc voilà, j'espère qu'il l'utilisera bien au mieux de l'intérêt du club, mais en tout cas l'histoire peut être belle, voilà.
Et
j'imagine
les
que
les ultras suivent, parce que les ultras Saint-Etienne sont souvent un contre-pouvoir.
Comment
fort.
Comment veux-tu ne pas suivre aujourd'hui? T'étais dans une telle merde.
Pour l'instant, il s'exprime pas trop là-dessus. Enfin, faut quand même voir que cette actualité extra-sportive est en train de percuter de plein fouet une actualité sportive qu'on n'espérait pas au mois de décembre. Hein. C'est à quoi on joue quand même la montée en Ligue 1. Enfin, pour l'instant, on joue le play-off vendredi avant de jouer les barrages. Donc, pour l'instant, ils sont plutôt là-dessus. J'ai pas senti de barrière, de résistance vis-à-vis de ça. Puis, de toute façon, c'est quand même des gens qui ont crié démission, direction démission pendant presque 8 ans. Donc voilà, aujourd'hui ils vont faire comme tout le monde, ils vont attendre de voir ce que les gens vont proposer. Et puis après, le foot c'est le foot. S'il n'y a pas de résultat au bout d'un moment, ça se remettra un peu à crier probablement. J'espère qu'on saura être un peu patient parce que il faudra reconstruire beaucoup de choses. Il faudra reconstruire beaucoup de choses.
Merci Joss.
Mais en tout cas,
on voulait avoir moi, un peu la température à Saint-Etienne avec toi.
Ouais, et puis comme ça, tu pourras me réinviter plus souvent l'année prochaine parce qu'on sera en Ligue 1. Puis, je veux juste rajouter une chose pour rebondir sur ce que vous avez dit sur les droits télé tout à l'heure.
Ouais.
Et une autre chose qui est très positif avec ce projet-là, c'est que on sent bien qu'on n'est pas loin d'aller vers un appauvrissement d'un certain nombre de clubs en termes de ressources télé. Tous les clubs, sauf le PSG, a priori. Je pense que les clubs qui auront un actionnaire fort s'en sortiront mieux que les autres.
Possible, en effet. Ça semble logique même. Merci Joss. À très vite.
Merci à vous et puis à très bientôt.
Tu as peut-être aussi entendu Claudio Cassapa tout à l'heure qui était dans Génération After et qui a dit, lui, le Lyonnais, que oui, Saint-Etienne doit revenir en Ligue 1, ne serait-ce que justement par rapport à Lyon qui a besoin de Saint-Etienne et de cette rivalité.
Mais il y a beaucoup de supporters lyonnais qui le souhaitent parce qu'il manque un truc en fait. Il manque un truc.
Bon, ben voilà, revenez en Ligue 1, les gars. Sauf que Lyon-Rodez, Daniel, t'es d'accord, peut-être ça sera moins excitant pour les Lyonnais que Lyon-Saint-Etienne. Enfin. Salut Joss. Dans un instant, le métier de recruteur dans le foot, vous allez en apprendre de belles grâce à Enzo Djebali qui sera avec nous dans quelques secondes. À tout de suite dans l'after.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici au kiosque à Pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur le kioskapizza.com. Pour votre santé, bougez plus.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h35. Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, Roger toujours avec nous, notre auditeur. Et Enzo Djebali nous rejoint. Bonsoir Enzo.
Bonsoir Gilbert et bonsoir à tous.
Tu sors un bouquin. Alors là, c'est même pas un bouquin, c'est une encyclopédie sur le métier de recruteur. Il y a 550 pages.
Ça se limite.
Oui, je sais pas si ça se limite, parce que là, on n'a pas pu tout lire, on va pas se mentir. Recruteur, tout sur le métier le plus important et le plus méconnu du football. Le plus important, t'exagères pas un peu?
Non, parce qu'au final, si on devait faire une analogie par rapport au corps humain, le recruteur, c'est les yeux d'un club. Et donc, c'est important de voir ce qu'on va acheter. Et aujourd'hui, dans un foot de plus en plus business, c'était un incident de vestiaire. Maintenant, ça devient un accident industriel, un mauvais recrutement. Donc aujourd'hui, ça devient de plus en plus le métier le plus important du football, selon moi. Et c'est pour ça que j'ai voulu en écrire un livre.
Mais quand tu parles de hiérarchie, il y a quand même entraîneur.
Quand on parle de recruteur,
je ne parle pas de hiérarchie. Je parle de maillon. En
fait. Moi, je suis convaincu que c'est un métier extrêmement important et qu'il l'est de plus en plus. Néanmoins, il est mal décrit.
C'est vrai.
Alors, je pourrais commencer par te demander qu'est-ce que ça veut dire, mais parce que ton titre, il est au singulier. Oui. C'est un recruteur. Donc, ouais. On a l'impression que c'est un gars pour un club, époque Pierre Garonnière à Saint-Etienne, le mec qui partait dans sa bagnole tout seul. Or, aujourd'hui, ce sont des cellules de recrutement composées de plusieurs hommes qui ont des stats, des datas, ont leurs yeux, se déplacent et travaillent pour un club ou pour plusieurs clubs. Globalement, il faut qu'une cellule de recrutement soit pour un club, on
est d'accord. Moi, oui, c'est ma conception des choses.
Alors, eh ben, donne-nous ta conception et ta définition de ce métier, du coup, alors.
Bah, pour moi, justement, ce qui est bien, c'est vraiment ce qui est bien, parce que c'est vraiment l'introduction du bouquin. Le mot anglais est plus adapté, le mot scout est plus adapté à ce qu'est le métier de recruteur. Scout, c'est à la base, c'est l'éclaireur militaire. Et l'éclaireur militaire, c'est celui qui va un petit peu voir le front d'à côté pour voir quelle troupe il y a en face, qu'est-ce qu'on peut mettre en face pour pouvoir battre l'adversaire, etc. Donc il y a ce côté un petit peu de prise d'information partout pour pouvoir après savoir quelles armes choisir. Donc pour moi, c'est ça la vraie définition du recruteur. Et effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Daniel. Aujourd'hui, on a une vision très et aussi en France, on a une vision très archaïque du métier de recruteur, où on a un peu l'homme providentiel qui est
qui a le nez, qui a l'œil.
Non, c'est pas vrai.
C'est-à-dire aujourd'hui, le DS n'est plus le recruteur. Ouais. C'est la stratégie sportive, on va dire, c'est et avec une armée de scouts.
Exactement.
Alors c'est quoi quand justement Flo employé ce mot, c'est quoi l'idéal pour un club? Il faudrait qu'il y en ait combien des recruteurs dans un club pour que ça fonctionne bien? Bah, on a une idée de ça?
Moi j'ai travaillé à Reims dans une cellule ultra courte, ça marchait super bien parce que le planning et tout ce qui était la délimitation des facteurs contraignants et limitants était super clair.
Et vous étiez combien pour être
concret? On était 3 plus 2 parce qu'il y avait un responsable des prêts aussi, donc il y avait donc en vrai au final.
C'est quoi, tu peux réexpliquer ce que t'as dit avant, les facteurs limitants?
Les facteurs contraignants, c'est tout simplement c'est
l'oseille que t'as pas.
Voilà, l'oseille que t'as pas. Les facteurs limitants, ça va être les règlements, ça va être aussi la culture du club et tout, etc. Après on peut prendre dans tous les sens.
Ça, tu sais que c'est passionnant. Très peu de gens savent que dans une cellule de recrutement, t'as des gens qui sont nommés pour réfléchir à des questions hyper précises.
Ah, bien sûr, mais moi, dans tous les clubs par lesquels je suis passé, j'étais en contact avec les supporters, ne serait-ce que pour savoir
quel genre de profil
ils aiment. Juste parce que c'est important de comprendre la culture du club dans lequel t'es. Un joueur qui est à Marseille, il va pas forcément réussir à Reims et vice versa. Parce que, et surtout, il va pas être apprécié de la même manière dans la club pour telle qualité, même pour telle défaut.
J'interviens dessus parce que pour avoir lu ces pages-là, c'est là que tu interviens sur tel joueur face à tel contexte.
Exactement.
Le recruteur. Parce qu'on demande quel club, on dit souvent, quel joueur il faut pour le club.
Exactement.
Et toi, tu dis, et c'est un truc évidemment capital. C'est marrant parce qu'il y avait des trucs, on avait l'impression de voir se sentir visé, parce que tu dis les gens au micro te disent ce mec est une banane, ce mec est
non
nul.
Mais je dis juste que c'est pas la même fonction. Ça veut dire que effectivement un recruteur, il peut voir un joueur, il fait un match pourri, il fait un match désastreux, mais il peut dire c'est ce joueur qu'il faut pour mon club. C'est ça en fait, c'est que il y a un paradigme pour le recruteur qui est différent de la performance. La performance, c'est pas forcément ce que le recruteur va analyser.
C'est intéressant parce que même pour nous dans l'observation, je te laisserai continuer, mais dans l'observation, c'est important de voir. Je te prends un exemple au hasard, vraiment, bien sûr, parce que t'en donnes aussi qui sont intéressants. Mais tu vois Mama Baldé, Trois, qui arrive à Lyon. C'est ce qu'il fait au début à Lyon. Si un gars vient l'observer à partir de là, il va dire mais qu'est-ce que c'est que ce joueur? Alors que tu ne peux pas obérer tout ce qu'il a fait et là où tu l'as vu faire ce qu'il a fait à 3 et ce qu'il va faire après.
Le contexte,
parce que comme tu le dis à un moment donné,
l'entraîneur va te parler ou pas.
Non mais là tu parles que foot et Enzo il parle aussi dans le bouquin. Un truc perso, un problème d'environnement, un machin qui vient perturber.
Est-ce que vous avez des fiches de cet ordre-là?
On enquête.
Quand t'es recruteur, pour savoir, ce joueur, on m'a dit, j'ai appelé un tel, qu'il n'arrête pas de sortir, c'est un mec qui fait le con,
On enquête, en fait.
Ça, c'est la base.
Mais déjà, même sur le terrain, on s'intéresse, c'est pour ça d'ailleurs que c'est très important d'être sur le terrain, lorsqu'on voit les matchs, on essaie de voir les signaux non-verbaux. comment il réagit avec les coéquipiers, s'il est capitaine, est-ce qu'il est écouté? Parce que parfois, moi, j'ai vu des capitaines qui ont le brassard, ils parlent, mais tu vois que le coéquipier, il se retourne, il entend pas, il est pas attentif, ou alors même tout simplement des joueurs, qui vont pester contre le joueur parce qu'il a pas fait la passe, alors que c'est pas le bon choix.
Les fameux bras en l'air de Cherki,
ouais, après, je veux pas viser des joueurs en particulier, mais t'as raison.
C'est Laurent Blanc lui-même qui disait qu'il fallait qu'il cesse de faire ça.
Non, mais il y a des, tu as parfaitement raison, Florent. C'est qu'il y a des joueurs qui dans les signaux non verbaux vont amener des signaux négatifs que déjà tu le sens. Déjà, tu vas invalider en tant que recruteur le caractère du joueur. Tu dis ça va pas coller chez toi parce que chez toi t'as un vestiaire où je prends l'exemple de Reims, tu vois, où tout le monde joue pour pouvoir être valorisé et mettre mis en avant. Et c'est un club plutôt paisible, tu vois, dans l'environnement. Si t'amènes un mec qui commence à lever les bras alors que tu lui fais pas la passe, alors qu'en vrai le jeu c'est de jouer au second poteau, le jeu au premier, ça va pas coller. Donc du coup, tu notes ça, tu peux mettre une croix rouge sur un joueur juste en voyant les signaux non-verbaux, le mental qui transparaît du joueur.
Mais quelle est la formation finalement du recruteur? Il faut qu'il connaisse le foot, mais c'est quoi, comment on dit, tu connais le foot au point de savoir tel joueur, son développement, il a 20 ans, à 23 ans, il sera meilleur. C'est compliqué, mine de rien.
C'est tout le problème. C'est d'ailleurs, moi, j'ai une carrière ridicule dans le football, j'ai joué en R3 au maximum. C'est ce qu'a fait ma chance, parce que justement, il n'y a pas de diplôme pour être recruteur. Déjà, ça a fait ma chance parce que j'ai pu gravir les échelons en tant que non-ancien professionnel, et parce que je ne peux pas passer des diplômes, parce qu'il n'y en a pas. C'est aussi le problème, parce que du coup, c'est aussi ce qui contribue à faire du recruteur l'image du mec, ouais, t'as l'œil, toi. Mais non, un recruteur, ça a une méthodologie, ça voit beaucoup de choses, ça doit prendre tous les facteurs.
Mais il y a la légende de j'ai l'œil.
Bah oui, mais c'est une légende qu'il faut absolument déconstruire parce que c'est complètement.
Et d'autant que tu dis dans le bouquin, à un moment donné, la théorie des 1000 minutes.
Ouais.
C'est que, évidemment, tu vois un joueur, en gros, l'équivalent de 1000 minutes, tu vois combien ça fait de matchs, tu le dis, une douzaine de matchs.
Ouais.
Mais ce qui est intéressant, pour donner un exemple qui est super sur un défenseur central que vous avez pas recruté finalement, je crois, à Reims.
On peut en parler, si tu veux.
Ouais, qui était au final de la Ligue Europa hier. Oui, t'as raison.
Edmond Tapsoba, Edmond Tapsoba qui a fait la finale.
Et en l'occurrence, ce qui est intéressant, ce qui m'intéressait, c'est que vous l'aviez repéré plusieurs fois et vous vouliez le voir dans un contexte précis qui était un gros match contre une grosse équipe, parce que tu t'es aperçu qu'il y a certains joueurs qui font 8 matchs très bons contre plein d'équipes différentes mais qui ont du mal dans les matchs à forte pression et autres. Et donc, c'est ça que tu as expliqué sur les 1000 minutes.
Oui, parce que Tapsoba, en fait, il performe bien avec la réserve de Guimaraes. Après, il est promu en équipe première, il fait un début de saison canon et il a eu un seul gros match en championnat du Portugal, c'était contre Porto. Et qu'est-ce qu'il fait sur ce gros match? Expulsion première minute.
Merde.
Donc du coup, tu te dis, à Reims, surtout à l'époque David Guillon, on était une équipe qui était réputée pour être fort contre les forts et faible contre les faibles. Donc au final, ça faisait notre pain d'avoir un joueur qui était performant dans les gros matchs. Donc il fallait à tout prix, puisque c'était une possibilité, devenu une possibilité, il fallait à tout prix l'observer. À deux, parce que j'étais avec mon collègue Wassil, que je salue d'ailleurs, attention maximale sur Tapsoba. On va voir un match où il y a 22 acteurs et on n'y va que pour Tapsoba. Pourquoi? Parce qu'on devait justement voir comment il allait gérer un match. Contre Benfica, exactement. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, des matchs à très grosse intensité au Portugal. Il y en a trois, six dans les deux. Donc du coup, au final, c'était extrêmement important, surtout quand t'as Guimaraes qui est un peu avec Braga l'équipe qui se bat pour les places en Europe. C'était très important de constater sur ce match-là. Et donc c'est là que tu te poses la question, quel joueur pour quel club? Bah justement, est-ce que Tapsoba répondait à ce moment-là à l'adversité d'une grande pression? Oui, mais est-ce qu'il aussi rentrait avec nos joueurs, parce qu'il fallait l'imaginer avec Abdelhamid, avec Younis? Là aussi, oui, mais de manière différente.
Complémentarité.
Exactement, complémentarité. Parce que.
Oui, il faut bosser aussi là-dessus, sur la complémentarité.
Exactement.
En l'occurrence, pour la petite histoire, il a fait un très gros match.
Ouais.
Dans le fameux contre Benfica. Ouais. Et après, vous ne l'avez pas pris pour d'autres
choses. Pensez du recruteur. Ouais. Moi, souvent, quand je rencontre un recruteur sur les stades et tout, il dit ouais, bon, lui, de toute façon, je l'avais vu, mais comme d'hab, le club ne m'a pas écouté. Ça, c'est
un classique.
Tout le temps, les recruteurs, t'entends tout le temps ça.
Non, là, ce qui est vrai aussi, c'est que j'ai beaucoup plus d'histoires de joueurs qu'on n'a jamais pu signer et qui est derrière cartonne que d'histoires de joueurs qu'on a signé et qui cartonnent. Puis déjà, les recruteurs, moi, c'est ce que je dis un peu dans le bouquin, les recruteurs qui ramènent tout à eux, je me méfie un peu parce que comme tu l'as très bien dit Daniel, en fait, une cellule qui travaille bien, c'est une cellule qui se concerte, une cellule qui se recoupe, parce que un recruteur, il est tout le temps dans le doute, en fait, il doit tout le temps se remettre en question. Et lorsqu'il voit un joueur, il va demander à son collègue, tu peux voir un peu. Il m'est arrivé d'ailleurs, il y a un joueur, j'en parle aussi dans le bouquin, j'avais ultra validé, etc. Tout l'été et jusqu'à l'automne, magnifique et tout, je mets les notes maximales pour Reims, et tout, etc. Quand justement on croise l'information avec mon collègue, il fait un rapport beaucoup moins fort. Et moi, du coup, j'avais arrêté de suivre parce que j'étais sur d'autres priorités. Et lorsque j'ai revu les matchs, et surtout même les stats d'ailleurs, qui correspondaient avec les matchs lorsque j'ai tout croisé, je dis, ah ouais, effectivement, en fait, le joueur, en fait, il a un creux en hiver parce qu'il est cuit, en fait. Il est cuit, donc, effectivement, les trois premiers mois, ça s'est bien passé, mais il a une baisse de rythme complète, il peut pas tenir une saison entière.
Vous l'avez pris?
Non, on l'a pas pris.
Et il a fait carrière, ce joueur, on sait où il est, c'est qui?
Le joueur, c'est Adam Maher, on peut en parler, hein, y a pas de souci. C'est un ancien international, hollandais d'origine marocaine, qui aujourd'hui, il est en Arabie Saoudite, je crois, et il joue pas beaucoup. Mais donc, justement, il y avait ce côté physique qui collait pas sur le long d'une saison.
Alors,
pub.
Ah.
Et oui, ça arrive. Et ensuite on continue la discussion. Encore un petit quart d'heure d'after ensemble. T'auras la parole tout de suite, Daniel. On se retrouve dans quelques secondes.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Gilbert Bribois.
Ah oui, il y a un match. Encore 10 minutes d'after ensemble, Daniel Riolo, Florent Gautreau, Roger, notre auditeur.
10 minutes,
soir.
Ça va être court, hein, parce que franchement, c'est passionnant. Ouais.
Enzo Djebali, recruteur chez Solar, le bouquin donc est dispo. Daniel,
Donc du coup, j'allais poser une question, mais je vais revenir parce que pendant la pub, on a eu une discussion notamment sur les joueurs qu'on a vus hier soir à l'Atalanta, où on dit très bon recrutement et on imaginait que selon les clubs, toi t'as bossé à Reims, mais j'imagine que Rennes, on peut pas réfléchir et faire des fiches sur n'importe quel joueur, parce qu'il y a des joueurs d'entrée, tu sais que c'est hors tarif.
Bien sûr.
C'est un petit peu comme quand tu fais ton shopping dans un centre commercial, il y a des boutiques, tu ne peux pas rentrer dedans parce que tu n'as pas l'oseille, et d'autres où tu peux rentrer dedans. Donc comment vous faites? Vous catégorisez les joueurs, vous dites, il rentre dans la catégorie, on peut l'approcher, et puis s'il fait 4 bons matchs, il change de boutique et tu ne peux plus y aller.
Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est déjà dès la fin du mercato, tu délimites tes frontières, en fait. En termes de budget, en termes aussi géographiques, parce qu'il faut se déplacer.
Et à l'intérieur de tes cases, tu mets tes joueurs. Lui, je peux le regarder, ou lui, ça sert à rien que j'aille le superviser.
Ouais, tu peux
parce que ce sera
équipes.
Trop cher.
Ouais, tu peux mettre des équipes même. Ou alors, tu peux te dire, ok, mais si c'est cette équipe-là, je vais prendre les joueurs avec qui jouent pas, etc. Donc, et tu te dis, donc tu prends une précaution. Donc en fait, tu délimites déjà la zone financière et la zone géographique.
Parce que là, tu disais à Flo pendant la pub, il y a des mecs à l'Atalanta que tu avais vus, par exemple Coop Miners ou Lokman. Tu avais les fiches, quoi, mais il y en a, c'est pas possible.
Voilà, parce que surtout, aujourd'hui, dans un football mondialisé, tu peux pas perdre du temps à faire des rapports sur des gens que tu peux pas faire. Donc, effectivement, tu fais des choix. Donc, Coop Miners,
Lokman, tu l'avais vu, il y avait.
Oui, en fait, non.
Je rappelle le langage des clubs, quand on fait un joueur, on le fait venir, en fait.
Oui, on fait venir, pardon, excuse-moi, t'as raison.
Non, parce que, dit comme ça.
T'as raison. Non, mais quand j'y fais, en fait, c'est surtout enclencher, on y va, on avance, mais tu as raison, c'est du jargon qu'il faut évacuer. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que Lookman, depuis Charlton, c'est ce joueur un peu, tu vois, qui dynamite les matchs, etc. Et c'est d'ailleurs ça qui est intéressant, c'est que quand tu regardes les joueurs de. Je veux pas changer de sujet, mais quand tu regardes les joueurs de Gasperini, quand tu revois un petit peu cette équipe, tu vois qu'il n'y a que des joueurs gasperinesques, en fait. Il y a des joueurs qui...
Parce qu'ils recrutent en fonction de ce qu'ils veulent.
Exactement.
Modèle,
ouais. Et Gasperini, en France, je ne sais pas s'il aurait pu mettre autant en place les choses, parce que peut-être qu'on ne l'aurait pas laissé passer. Faut pas oublier quand même...
On ne l'aurait pas fait quoi, pardon.
On ne l'aurait pas laissé le temps, mais je veux dire, parce qu'il ne faut pas oublier la saison 2016-2017, la première saison de Gasperini, qui sort en plus de Genoa, l'Inter, ça c'est pas bien fini. La première saison, il joue le maintien. Puis finalement, il se dit, bon, ok, allez, j'ai compris, les anciens, je les vire, et je mets en place tous les jeunes du club. Donc, ce temps-là, il y a beaucoup de championnats, il y a beaucoup de clubs, on n'aurait pas laissé le temps du projet. Et donc, au final, c'est là que tu vois que tu laisses bâtir un projet de quel joueur pour quel club, et au final, t'as que des joueurs qui collent à Gasperini à fond la caisse. Pourquoi je te dis tout ça? Parce que, quand tu avances dans le recrutement français, les recruteurs n'ont pas assez le poids pour pouvoir dire, mais attendez, nous on joue comme ça, donc pour le coach, même si lui il pense jouer comme ci, mais il joue comme ça. Et
le gars, si tu le vires en bout de 3 mois, c'est sûr que c'est compliqué.
Après, voilà, si on pense que le coach a des compétences interchangeables, on peut pas avoir voix au chapitre et avancer un projet qui est cohérent dans l'ensemble du quel joueur pour quel club.
Alors la question que j'allais poser avant la pub, et quid des clubs qui en ont pas? Le PSG, ils n'ont pas de recruteur.
Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Je pose vraiment la question.
Eh ben, c'est ça, je voulais qu'on en vienne à ça. Est-ce que l'OM a des recruteurs?
Oui, l'OM a des recruteurs. D'ailleurs, il y a eu un exode massif des recruteurs de l'OM à l'OL, d'ailleurs, qui étaient des recruteurs de très qualitatifs que je connais. Mais
tu parles de David Friant.
Je parle surtout. Après, David Friant, je le connais pas, donc je vais pas permettre de.
Il est devenu directeur sportif.
Au départ,
il supervisait les joueurs.
Non, David Friant, je le connais pas, mais je parle surtout de Mathieu Sekinger, de Michael Marquez, de Ben Charrier, qui sont des personnes.
Des gens qui, pour le grand public, sont totalement inconnus, mais qui sont des chevilles ouvrières dans les clubs, qui bossent, qui font.
Lui, Campos a un service de recrutement. Pas pour lui.
Oui, mais justement,
il n'a pas besoin. Il est DG du PSG. Le PSG n'en a pas besoin pour le moment.
Non, c'est ça, c'est ce qu'on dit en fait. C'est que, est-ce qu'on a besoin d'un recruteur sur, au final, un champ de joueurs qui est extrêmement réduit? Parce qu'au final, ce que tu dois analyser pour un joueur du PSG, c'est est-ce qu'il est mentalement prêt à affronter.
C'est
pas le même recrutement. Et d'ailleurs, je ne vais pas comparer le PSG.
Dans le cas de Campos, il faut être dans le catalogue.
Non, mais le catalogue, c'est un catalogue autre sujet. Oui, mais avant qu'il travaille avec, comment il s'appelle, j'oublie son nom.
Avec Mendes.
Mendes, quand il était à Monaco, quand il était à Lille, il avait tout son truc de recrutement.
Oui, mais le problème, c'est qu'on a l'impression qu'au PSG, certains joueurs ne pourront jamais venir. Alors qu'a priori, t'as les moyens de faire qui tu veux.
Oui.
Et pourtant, tu dis, lui, il viendra jamais. Mais ça, c'est encore un autre sujet du
regard. Oui, mais il y a des joueurs que je t'entendais parler. Il y a des joueurs, par exemple, c'est mon avis, je veux pas au PSG, le joueur de City, je le veux pas au PSG. Comment il s'appelle, le Portugais?
Bernardo Silva.
Non.
Pourquoi?
Parce que pour moi, c'est marqué City. Il a gagné la Ligue des Champions à City. Au PSG, il prendra les sous et puis c'est tout.
Ah, d'accord, mais là tu parles d'autre chose. Tu parles de. Voilà. Il y a un côté affect. Et est-ce qu'il a pas trop gagné? Est-ce qu'il a encore?
Voilà. Il y a plein de joueurs.
Est-ce que son prime n'est pas passé? Ça, je suis d'accord.
Tu sais que le site Transfermarkt a fait une étude très intéressante. Il y a une valeur de Transfermarkt des joueurs affichés. Le PSG est, je crois que dans le top 5 des clubs qui font le plus baisser la valeur des joueurs.
Oui, je l'ai vu. Ouais. Avec le Manchester United qui est en tête.
Ouais, exactement.
Mm-hmm. Ouais, j'ai vu ça.
En termes de bid de l'année, Manchester United, c'est imparable.
Quel est le club qui aujourd'hui, en termes de recrutement, est le meilleur, de ton point de vue?
On va dire celui qui optimise le mieux, je dirais Brentford. Pour moi, le meilleur modèle, c'est Brentford. Après, c'est un modèle qui a ses vicissitudes, on va dire, qui a ses petites différences, petits problèmes. Faut rappeler, c'est un club qui est géré par Rasmus Højlund. C'est un club qui mise beaucoup sur l'infrastructure et la compétence, qui du coup a une masse salariale faible et qui a une tripoter une armée de scouts techniques.
Quand tu dis bosse le mieux, c'est parce qu'ils valorisent les joueurs.
Parce que déjà, de 1, ils valorisent les joueurs. Tu as raison, Daniel, c'est tout à fait ça.
En même temps, ils sont avant-dernier de...
Business,
ils ont fini 14e.
Toi, je confonds avec qui, moi?
C'est une équipe de bas de tableau.
C'est une équipe de bas de tableau.
Tu parles de valorisation de joueurs.
Valorisation
c'est
de joueurs.
Pas de rendu des mecs sur le terrain pour le jeu qu'ils pratiquent.
Optimisation.
Parce que là, comme ça, au niveau européen, alors c'est vrai que c'est tout frais dans l'actu, c'est noté. J'ai l'impression que ces dernières années, beaucoup citeraient l'Atalanta.
Oui, l'Atalanta, c'est un modèle aussi, complètement. Mais
ou bien Leipzig, ou je sais pas.
Leipzig aussi, c'est un modèle en termes de rigueur de ce qu'ils amènent.
C'est une machine énorme.
Non, mais moi, j'ai eu des joueurs qui sont venus me parler en me disant, choqué de la présentation qu'ils font.
Le temps passe vite, il nous reste peu de temps, mais une question très importante.
Ouais.
Est-ce que votre boulot, c'est l'anti-Toulouse? Vous parlez de déplacer sur le terrain, de regarder les joueurs, les yeux. On parle pas de data.
Toulouse, ce sont les yeux. Ils ont fait venir des mecs. Franchement, c'était bien.
Toulouse, ils utilisent les yeux. Ouais. C'est juste que là, tout à l'heure, on parlait des facteurs limitants, contraignants. Toulouse, en fait, eux, leur façon de faire, c'est
des broussailles.
Ouais, c'est d'autres facteurs limitants, c'est voilà. Tic-tic-tic, la machine, elle dit quoi? Ça, cette liste de joueurs, et toutes les semaines ou tous les jours, la machine, elle renouvelle la liste de joueurs. En fait, c'est leur façon de travailler, c'est qu'ils limitent par rapport à la data. Ils cadenassent par rapport à la data. Mais derrière, ils regardent les joueurs, ils s'informent, ils enquêtent. Il y a des recruteurs à Toulouse. Moi, c'est pas ma façon. J'ai pas eu l'habitude de travailler comme ça. Je préfère d'abord voir, d'abord délimiter avec ce qu'on peut faire, ce qu'on peut voir avec l'œil, et après recroiser ce que, comme je disais l'exemple tout à l'heure, recroiser avec la data.
Mais plutôt la data après.
Voilà, moi je suis plus d'école après data terme. Après, mais en vrai, l'école de Toulouse, c'est la data avant. On a un catalogue de joueurs par rapport à la data avant.
Mais après, on les regarde quand même.
Voilà. Donc c'est ça un peu parce qu'ils sont,
comme dit Daniel, il y a quand même beaucoup de belles réussites.
Oui, non, mais après, c'est une méthode. Mmh. Et d'ailleurs, j'en parle dans le livre, il y a un chapitre entièrement consacré à ça. Quand tu vois certains modèles qui réussissent comme ça, ou Liverpool qui a utilisé beaucoup d'astrophysiciens, etc., pour étudier plein de probas.
Astrophysiciens.
Ouais. Et en fait,
c'est pour envoyer les joueurs sur Mars.
Ouais. Les mecs, en fait, ils ont pris des mecs qui peuvent aller à la NASA pour calculer, parce que tu sais, les calculs de probabilité pour les fusées, que si tu rates un millimètre, tu te trompes de planète. Bah eux, ils ont pris ça pour calculer en fait les probabilités qu'un joueur fonctionne dans ton club ou pas. Donc, de plus en plus, quand tu vois le succès de certains modèles comme ça, tu te dis. On commence à arriver à l'embryon d'une réussite.
Réflexion à Liverpool.
J'en parle un peu dans le bouquin.
Si tu as des exemples précis, je te le dis tout de suite, comme ça se termine, tu vas revenir. Parce que ça, c'est vraiment, ça m'intéresse. Moi, ça, je veux vraiment savoir comment ces mecs-là travaillent. Sur ses stats et ses data.
On n'a jamais fait dans l'histoire de l'after un inviteur deux fois, mais c'est pas.
Vraiment, je pense que ça vaut le coup. Moi, c'est des choses qui me passionnent. Je pense que les auditeurs adorent. D'abord, le recrutement. Dans l'imaginaire du supporter.
Recreps ?
Ouais, ça te dit rien ?
Non, ça me dit rien. Peut-être une prononciation.
Ouais. Mais... Ah, tu verras.
Non, mais je vais voir. Pas de souci. En tout cas, on a
Patrick Duffy, non ?
Mais tais-toi, il aurait cherché ! Il aurait cherché !
Ah, c'était une merde. Je me suis fait berner. Tu vois, au moins, moi, quand je
suis arrivé. Recreps dans Dallas, c'était le gars qui guidait les vaches, là.
Ah, moi, je connais. À part JR et celle qui
est
sous
Hélène.
Sous Hélène,
il serait allé chercher Recreps toute la nuit.
Non, mais tu vois, c'est la preuve. Non, mais c'est la preuve que je suis pas du genre. Mais bien sûr, Recreps, je l'ai scouté 27 fois.
Tu reviens.
Quand je connais pas, je reviens.
Avec mon cas, Enzo Djebali, recruteur chez Solar, hein, si ça vous intéresse, évidemment. On en reparlera donc dans l'after. Roger, merci d'être venu, c'était vraiment sympa.
Merci
Roger. N'hésite pas à rappeler quand tu veux pour.
C'est un bon moment.
Et comme dit Roger, tous les chemins mènent au Rome.
C'est dommage, hein, j'ai pas pu faire le point avec Daniel, mais c'est pas grave, ça serait notre.
Quel point?
Le point sur beaucoup de choses.
Non, fais le point, on va faire une émission spéciale quand même, Roger.
Non, mais d'accord. Non, mais comme. Florian l'avait déjà fait avec toi, c'est pas vrai.
Très bien.
Voilà.
Roger, t'es le bienvenu quand tu veux. Demain soir, l'after sera là, bien évidemment, avec le barrage, deuxième barrage entre Saint-Etienne et Rodez. Bonne nuit à tous.
RMC, l'after foot.